Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut. Je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et si tu es là depuis longtemps, tu le sais, j'ai réalisé l'an dernier des formats hors série avec des spécialistes culture, art et plus largement pop culture pour parler de la représentation de l'amitié dans ces formats-là. Ces épisodes hors-série, ils vont reprendre en 2022, j'en avais très envie. Le rythme, il sera irrégulier, mais j'aime beaucoup ces échanges-là, alors je voulais vraiment reprendre ce format. Aujourd'hui, c'est donc un épisode hors-série que je te propose avec Sabine Lesure. Elle est journaliste passionnée d'art et de culture, journaliste installée dans l'Est de la France, dans les Vosges. Et avec Sabine, on a enregistré en mai dernier. Tu entendras donc quelques références à la réouverture des musées, à l'arrivée du printemps, au retour des terrasses. Mais ça n'empêchera pas de profiter de l'épisode. On a choisi aujourd'hui de te parler d'une artiste peintre pas encore très connue du grand public. Elle s'appelle Berthe Morisot. Et le choix, il s'est porté sur elle et sur ses tableaux pour l'époque dans laquelle elle a évolué et pour ses amitiés qui l'ont portée sur le devant de la scène. Avec Sabine, on te raconte son histoire et ses amitiés. Et puis évidemment, tu connais la chanson. Si cet épisode te plaît, partage-le sur Instagram. C'est aussi là-bas que tu peux m'écrire si tu as des retours, des questions ou des envies pour Friendship. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be
there. You can count on me cause I can count on me. À quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Bonjour Sabine.
Bonjour.
Je suis donc ravie d'être avec toi aujourd'hui. Pour te présenter assez rapidement, donc toi tu es journaliste en PQR, donc c'est la presse quotidienne régionale, donc dans un quotidien qui s'appelle Vosges Matin, donc comme son nom l'indique, qui est diffusé dans les Vosges, donc dans l'Est de la France. Et toi tu es la spécialiste culture du journal, on peut dire.
Si on peut dire
la
ça.
La rubrique locale en tout cas. Fut un temps où c'était, il y avait plus de pages, on va dire, dans le journal, donc tu en faisais plus de sujets culture, mais en tout cas c'est vraiment ce qui te passionne, donc, tout ce qui est... l'art sous différentes formes, donc tu m'as parlé du théâtre, de la peinture, des expos, de la littérature aussi. Et donc du coup aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble de peinture, tu m'as laissé le choix. Donc on a échangé ensemble sur différents sujets qu'on pouvait aborder sur le thème de l'amitié dans la culture dans son entièreté. Tu m'avais parlé de théâtre, de littérature. Et puis on s'est arrêté sur la peinture avec ce personnage qui est Berthe Morisot, donc une artiste peintre française.
que finalement on connaît très peu, parce que quand tu m'as cité Berthe Morisot, tu m'as donné d'autres noms aussi, donc d'artistes peintres hommes que je connaissais beaucoup mieux finalement qu'elle. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui est Berthe Morisot, à quelle époque est-ce que elle développait son art, de quelle ville elle était, d'où elle a puisé ses origines enfin.
Alors Berthe Morisot, aujourd'hui on la connaît quand même un peu mieux parce que donc elle appartient au courant des peintres impressionnistes. Donc, on peut dire que ce courant de peinture est quand même un courant qui est très apprécié, très connu du grand public, qui est très accessible et qui a beaucoup d'adeptes. Et on comprend pourquoi quand on voit ces tableaux qui sont des myriades de fleurs, de végétation, de couleurs et qui sont chatoyants. Donc, Berthe Morisot, elle, c'est une jeune femme qui est née en 1841 à Bourges, dans un milieu bourgeois. Et ce qui est intéressant, c'est que donc elle est peintre. Elle fera toute sa carrière comme peintre. Elle mourra malheureusement assez jeune, à la cinquantaine, en 1895. Mais elle fera partie intégrante du mouvement des impressionnistes.
Oui, à ses côtés, en tant que peintre impressionniste, elle a ses amis, notamment Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Stéphane Mallarmé. Donc c'est quand même des noms qui sont très, très connus. Et ce qui est marrant quand tu la présentes, c'est que tu dis qu'elle a fait toute sa carrière en tant que peintre, alors qu'à l'époque, finalement, une femme qui fait de l'art, c'est presque pire qu'une femme qui travaille, finalement.
Voilà, c'est pour ça un peu que je l'ai choisie. C'est peut-être mon petit côté féministe, parce que, donc, à l'époque, il faut rappeler que les beaux-arts étaient fermés aux filles. Donc, c'était interdit d'étudier la peinture. Quand on était dans un milieu bourgeois, on pouvait effectivement, papa, maman, payer des études de piano, une formation de piano, des cours de peinture, mais on n'en faisait pas un métier. Et donc, Berthe Morisot, elle a dépassé tout ça. Elle a lutté contre justement cette tradition qui voulait que les femmes étaient mariées. Et une fois mariées, elles faisaient des enfants et elles restaient cantonnées à ce rôle de mère et d'épouse pour justement persister et percer dans la peinture.
Et elle, justement, en plus, ce que j'ai pu lire, c'est que son mari, donc, qui était Eugène Manet.
Frère de Manet.
D'Edouard Manet, voilà, Edouard. Ça, c'est qu'il l'a beaucoup mis en avant aussi et il l'a porté pour développer son art. Et c'est aussi avec son entourage qu'elle a pu vraiment faire de cet art-là son métier, parce que sinon, ça n'aurait pas pu aller si loin. Elle a eu de la chance aussi d'être entourée et d'être dans ce milieu bourgeois-là. Et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on l'a choisie, c'est parce que justement elle était très bien entourée et elle c'était finalement pas la muse qu'on peut voir d'habitude pour chaque peintre a sa muse et elle c'était clairement la peintre qui inspire en tout cas.
Bien sûr, alors Berthe Morisot avant de rencontrer cette team justement on va en parler, ses amis hein, qui ont compté pour elle et qui ont été aussi ses frères de peinture, comme je les appelle. Elle a peint seule, en tout cas, encouragée par une maman, qui était peut-être une maman d'un milieu socialement bourgeois, élevé, mais qui reconnaissait quand même que ses filles, parce qu'elles étaient deux filles, trois enfants, donc elles étaient trois filles. Elle avait deux sœurs, elle avait Yves, Edma, et donc elle avait en plus un frère qui s'appelait Tiburce. Et donc, la maman a laissé peindre les filles. Elle a même été bienveillante avec elle. Elle l'a permis justement d'encourager ce don. Hein. Sauf qu'à un moment, les sœurs se sont mariées. Et la seule qui a persisté, c'est Berthe qui a préféré. Elle continuait à peindre et qui a fini par se marier, mais à une trentaine d'années. C'était très tard pour l'époque parce que la famille a commencé à être désargentée. Le papa est mort, donc il a fallu subvenir aux besoins de la famille. Donc, elle n'a pas dérogé à la tradition, elle n'est pas restée célibataire, elle a fini par épouser donc le frère de son ami Édouard Manet, Eugène, qui était donc un homme bienveillant, qui a donc accepté que sa femme peigne et qui l'a beaucoup aidé, justement. Il était le premier à aller accrocher les tableaux dans les expos, à lui porter son matériel. Enfin, bref, avec sa bénédiction, elle a pu poursuivre. Elle n'aurait pas pu si elle avait eu un mari traditionnel qui lui disait « Ben non, maintenant, tu t'occupes de nos enfants. » Enfin, elle n'a eu qu'une fille, hein, qu'elle n'a cessé de peindre, d'ailleurs. Hein, et donc, elle n'aurait pas pu persister dans ce domaine-là. Alors, je pense que ce qui l'a aidé, c'était déjà son tempérament. Il faut être moderne. Elle était moderne, elle avait sûrement une maman qui avait dû aussi semer des petites graines de modernité pour que, elle accepte que sa fille exploite ce don. Et puis aussi parce qu'elle a été bien entourée. On l'a dit tout à l'heure, elle avait cette grâce à ce don, elle a rencontré. Donc, ça a commencé au Louvre, parce que quand on apprenait la peinture et qu'on n'avait pas accès aux Beaux-Arts, ben, on copiait. Donc, on allait copier au Louvre les grands classiques. Et donc,
il y a pire quand même.
Oui, voilà. Et donc, elle allait s'installer au Louvre avec sûrement d'autres jeunes femmes de son rang, copier les classiques. Et c'est là qu'elle a rencontré Édouard Manet, qu'elle n'a pas épousé, qui était donc un peintre de grand talent, un charmeur, quelqu'un vraiment qui était très séduisant et très talentueux. Et on a longtemps pensé qu'ils avaient eu une aventure secrète. Voilà, on ne saura jamais, rien ne dit en tout cas par écrit qu'elle aurait eu une aventure avec ce peintre. Mais en tout cas, lui, il a fait partie de ses frères d'armes de peinture qui l'ont encouragé justement à peindre.
Et qui l'ont défendu aussi parfois, j'ai pu le lire, on va le redire juste après. Juste savoir un peu son style. Alors on a parlé de l'impressionnisme. Quand elle commençait au début, à quoi pouvaient ressembler ses œuvres par rapport à l'évolution au fur et à mesure de son travail, avec aussi au fil des rencontres qu'elle a pu faire avec tous ces grands peintres aussi qu'elle côtoyait presque au quotidien.
Les peintres impressionnistes, ils sont catégorisés comme des peintres de l'extérieur, les peintres de la nature, de la végétation. Elle, je pense qu'elle a commencé à peindre les gens qui l'entouraient. Par la suite, quand elle a été maman, elle a beaucoup peint sa fille, Julie, qu'elle appelait Bibi. Et je pense qu'elle a commencé par des choses simples, ce qui l'entourait. On dit que autant Marie Cassatt, qui était donc sa contemporaine, une américaine qui était aussi impressionniste, était la peintre de l'enfance. On peut dire que, comment elle s'appelle, Berthe Morisot, elle était la peintre de l'intimité, de l'enfance, parce qu'elle a peint beaucoup sa fille, mais aussi de l'intimité. Et elle a beaucoup peint également des personnalités de l'époque, sa sœur, ses amis peintres. Enfin, voilà. Je pense que c'est l'intime qui l'intéressait vraiment.
Pour parler de ses amis, donc avec tous ces grands peintres qu'on a cités, mais qu'on va redire, donc avec Édouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet et Stéphane Mallarmé. Elle fait partie donc du mouvement des peintres impressionnistes et elle a même fondé avec eux le groupe des artistes anonymes associés. Donc précisément dans ce groupe, il y avait donc Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro et Edgar Degas, donc avec elle. Groupe qui s'est ensuite transformé en société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Donc elle faisait partie de tout ce groupe qu'il a aussi porté, parce qu'il y a eu parfois des tableaux, des œuvres qui lui ont été refusées, mais où ces hommes l'ont mis en avant, ont mis son travail en avant pour qu'elle soit malgré tout respectée et que son travail soit respecté à sa juste valeur. Est-ce qu'on peut dire deux mots peut-être sur ce groupe? Qu'est-ce que c'était exactement? Quel était l'intérêt de s'unifier comme ça en groupe des artistes anonymes?
En fait, c'était une femme qui était assez indépendante et très audacieuse. D'ailleurs, elle était assez discrète, assez effacée. Elle pouvait même paraître pour quelqu'un de froid. Mais je pense que pour rester indépendante, à l'époque, on exposait au salon, dans les salons classiques académiques. Et elle n'avait pas envie de cet académisme, elle a voulu s'en distinguer, et au demeurant, comme beaucoup d'autres. C'est ce qui a d'ailleurs créé une espèce de, pas de scission, mais de rupture avec Manet, avec qui elle est quand même restée liée, toutefois, enfin le peintre en tout cas. Donc, elle s'est associée avec ces peintres-là pour créer cette communauté de peinture, cette communauté d'amis, d'âmes, pour pouvoir exister avec leur propre sujet, leur volonté de montrer ce qu'ils avaient envie de montrer, et non pas et pour s'éloigner surtout de l'académisme de l'époque, parce que si on reprend les coupures de presse, moi qui suis journaliste, des fois je me dis on n'est pas très tendre parfois sur le plan critique, tant avec des expos qu'avec peut-être des films ou des choses comme ça. Mais à l'époque, ils avaient aussi la dent très très dure dans les journaux par rapport à ces artistes, et ils disaient des choses vraiment très violente. Donc, eux, ils ont voulu s'en distinguer. D'ailleurs, à l'époque, Manet n'a pas voulu suivre ce courant, et il a un peu continuer son chemin seul, alors que Berthe a préféré rester avec cette communauté, ses frères de peinture, comme je le dis. Et donc, ils ont créé ces expositions. Et une fois qu'elle a franchi ce cap d'indépendance avec cette communauté-là, c'était donc d'ailleurs Nadar, le photographe, qui, donc, en marge de ce salon, a créé cette propre exposition, ce propre salon indépendant. Elle ne l'a plus quitté. Elle ne l'a plus quitté et elle a percé dans ce domaine-là. Elle n'a jamais dérogé à la tradition. Elle a une forme d'indépendance, mais aussi une forme de fidélité, cette femme, tant dans ses sujets, dans ce qu'elle a choisi de se donner comme conduite et comme profession et comme passion, que dans les gens qu'elle fréquentait, notamment sa team. On peut dire aujourd'hui sa team, à l'époque on aurait pu l'appeler ses mousquetaires, ce cercle d'amis, comme les appelle Dominique Bonnat, qui a écrit une magnifique biographie sur Berthe Morisot, très très documentée. Elle dit que c'était le cercle des génies. C'était les mousquetaires de Berthe Morisot.
Et justement, c'est vrai que c'est étonnant parce que à l'époque, c'est vrai qu'on connaît peu d'artistes peintres de l'époque parce que bah voilà, leur travail n'était pas reconnu, mis en avant. Donc elle, c'était un peu une féministe avant l'heure. Elle s'est battue en tout cas pour pouvoir peindre et pour pouvoir être mise sur le devant de la scène. Mais en même temps, sans tous ces hommes autour d'elle, elle n'y serait pas arrivée parce qu'ils l'ont soutenue sans cesse. J'avais noté que Renoir et Pissarro l'avaient défendue parce qu'elle avait été jugée dans la presse comme... On parlait d'elle comme d'une prostituée après avoir vendu 12 œuvres. Donc c'était,
C'était scandaleux
en fait à l'époque.
C'était démoniaque, moi je dis tellement. Il y avait une dureté par rapport à tout ça. Mais heureusement, elle avait des hommes intelligents autour d'elle.
Elle a bien su les choisir aussi,
voilà,
peut-être.
Voilà, je pense. Et puis, je pense qu'il y avait cette résonance entre eux. Heureusement, des hommes qui avaient devancé leur époque et qui la considéraient comme leur sœur, leur frère. Ils n'ont jamais défailli et en plus, ils l'ont considérée à égalité, sur le même pied d'égalité. Ça, c'était d'une grande modernité. Alors, si on veut rentrer un petit peu en détail dans cette team de mousquetaires, alors, il y avait Renoir, qui était peintre de la femme et de la sensualité. Alors, lui, c'était une bonne patte. C'était quelqu'un de joyeux, Renoir. Vraiment, on le voit dans ses tableaux, c'est coloré. Il peignait ses enfants, il peignait ses compagnes, les femmes. Enfin, il adorait. D'ailleurs, il peignait beaucoup avec Monet. Et lui... Il était un petit peu avec Berthe Morisot comme un frère. Il était vraiment celui qui échangeait des choses sur le monde, la peinture. Et vraiment, il l'encourageait.
Oui, d'ailleurs, même à la mort de Berthe Morisot, c'est lui qui a pris un peu sous son aile. Alors, tous ont protégé la fille de Berthe Morisot, puisque son mari était déjà décédé. Mais c'est lui qui lui a appris à peindre pour transmettre encore cette...
Ouais, c'est une grande famille, finalement, où tout le monde se serrait les coudes. Alors après, c'est Mallarmé qui est devenu le parrain de Julie. Mais Renoir a vraiment eu un rôle comme ça. Voilà, il a épaulé, il a été ce frère... qui partagent les mêmes passions pour la peinture. Après, il y a eu Claude Monet, lui, qui était un peu différent, qui était déjà un tout petit peu plus âgé, parce que bon, il y avait aussi ce rapport d'âge. Renoir avait le même âge que Berthe Morisot, donc qui était aussi un frère quelque part, mais qui était un peu plus géniard. C'était pas tout à fait la même personnalité, Monet. Alors quand on voit le prix des toiles aujourd'hui, la popularité quand on parle du mouvement impressionniste, connu pas connu, aujourd'hui c'est un mouvement qui a dépassé l'entendement au niveau des prix et de la notoriété. Et alors là, Monet, lui, c'était le type désargenté par excellence qui passait son temps à réclamer des sous à tout le monde.
Mais est-ce que déjà à l'époque c'était des œuvres qui étaient autant reconnus pour leur talent, ou c'est vraiment aujourd'hui qu'on s'en rend compte?
Ça a pris de l'ampleur au fil des années, quelques années plus tard. Après, Monet a été reconnu de son vivant. Sa maison de Giverny, où il peignait sans arrêt ses nymphéas, ses bassins de nénuphars, il a été reconnu de son vivant. Mais à la fin de sa vie, Au début, quand on lit ses lettres, c'est vraiment Il avait besoin d'argent, c'était pénible parce que c'était...
Il n'a pas choisi le bon métier, hein.
Mais à l'époque, ils avaient, voilà. D'ailleurs, le fil rouge de tous ces personnages, de cette fraternité de peintres, c'est que c'était difficile, quoi. Hein. C'est pour ça qu'ils avaient créé ce salon des indépendants, parce que aussi, ils voulaient vivre. Ils sont sans arrêt en train d'essayer de vendre, d'échanger. Enfin, quand on lit ça, on se dit, mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre parce qu'on a dans l'esprit ces budgets, ces tableaux vendus aux enchères des millions d'euros, enfin, c'est presque, ça dépasse l'entendement, quoi. Donc, eux, ils étaient sans cesse en train d'essayer de gagner une notoriété, hein. D'ailleurs, le terme impressionniste vient d'un journaliste du Charivari, le roi, qui était allé voir une expo et qui avait dit « Mais c'est quoi ces impressions? C'est moche. Enfin, » et donc, on tire le nom d'impressionniste de là, quoi, parce que ben, c'était pas académique, hein, de faire des fleurs, des personnages avec le regard dans le
vide. Puis comme toute nouveauté, ça dérange. Et puis après, une fois que c'est là, on se dit « Oh, finalement, c'était pas si mal. »
Voilà, exactement. Alors, il y a donc Claude Monet, lui, c'était également une espèce de grand frère. Il aime Berthe comme sa sœur. Hein, et lui, il va lui transmettre le goût du travail. Hein, lui, c'est un persévérant, quelqu'un qui remet sans arrêt son exercice pictural pour voilà, aller jusque dans le détail. Et ce qui fait que voilà, il va transmettre ce goût du travail. Et puis, il y a le troisième mousquetaire, c'est Degas. Degas, justement, voilà. Hein, d'où son nom, Degas, voilà, qui nous amuse aujourd'hui. Lui, c'était le grognon de la bande, un peu soupaulé, même acerbe, mais qui a été un des plus fidèles à Berthe Morisot. Il avait une relation assez régulière. Hein, et il a été plutôt comme un père dans ces cas-là, peut-être... parce qu'il était plus âgé, parce que c'était une espèce de célibataire endurci. Lui, il aimait plutôt les jeunes femmes. Hein, d'ailleurs, son œuvre est très marquée par les représentations des danseuses à l'opéra. Il adorait aller à l'opéra. D'ailleurs, c'était également... Alors, le fil rouge aussi, c'est le travail, parce que Degas, il allait traîner tout le temps à l'opéra et jamais il ne dessinait sur place. Hein, jamais, 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 personne ne l'a vu avec une palette. Et quand on voit aujourd'hui la finesse des danseuses de Degas, on se dit, mais quelle mémoire, quel travail. Bon, après, ils embauchaient, bien sûr, des modèles.
Oui, puis ils devaient beaucoup
modèles.
Y aller aussi.
Ils embauchaient des modèles. D'ailleurs, on a fait, tu as fait tout à l'heure allusion à ces muses, oui. Ce que n'était pas du tout Berthe Morisot. Hein, ils embauchaient beaucoup des muses qui devenaient leur maîtresse, leur amante. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont fait carrière. Hein. Faut pas oublier, par exemple, Suzanne Valadon, qui est née quelques années après Berthe Morisot, qui a été beaucoup muse et modèle, mais qui a aussi fait une carrière. J'ai vu un portrait de Suzanne Valadon et je me suis arrêtée longuement devant ce portrait. Je me disais, c'est formidable. Heureusement qu'il y a eu ces femmes-là qui ont percé, qui n'ont pas démordu de vouloir à tout prix exister par elles-mêmes, par leur...
Peu importe le moyen.
Voilà, elles y sont arrivées, finalement. C'est parce que l'histoire a occulté volontairement, avec cette tradition patriarcale de mettre en avant les hommes. Mais il y avait Marie Cassatt, cette Américaine qui était contemporaine de Berthe Morisot, a beaucoup peint et a été aussi reconnue, mais malheureusement, quelques années plus tard. Voilà. Et justement, Berthe Morisot, elle a été également... elle a servi de modèle. Elle a aussi sacrifié à cette tradition, mais elle ne s'est pas cantonnée qu'à ça. C'est ça qui était bien.
Et puis, ce n'est pas avec ça qu'elle a commencé non plus. Donc, c'est vrai qu'on ne la catégorise pas comme ça, en tout cas.
Comme muse, voilà, ou comme modèle. Elle a beaucoup été peinte par Manet, justement, qui l'admirait énormément et qui l'a peint. Alors, certains disent 11 fois, d'autres 14. Enfin, voilà, l'histoire est réinterprétée différemment. Et le jour où elle a épousé Eugène, il ne l'a plus représentée. Il a fait son dernier portrait, lui a mis l'alliance à la main. Et donc, ils ont cessé d'avoir ce rapport, justement, de pseudo-muse, en tout cas. Mais c'est lui qui l'a quand même le mieux représenté quand on voit ce magnifique portrait au bouquet de violettes, où elle est habillée de noir, souvent habillée de noir, d'ailleurs. Et la profondeur de ses yeux noisettes, là, on se dit quelle femme, quel tempérament elle devait avoir. Et finalement, elle cachait beaucoup de mystères, mais en tout cas, une détermination qui fait qu'elle a pu percer, effectivement.
Je mettrai pour les auditeurs différentes images des tableaux dont on parle donc, sur le compte Instagram du podcast. Et puis, pour continuer de parler de ce groupe, justement, tu dis que donc elle a été en quelque sorte une inspiration pour Manet avant qu'elle se marie. Est-ce qu'on peut voir avec les autres, ou même sur ses tableaux à elle, des inspirations de, des autres, justement, de ses amis avec qui elle travaillait, enfin, avec qui elle était au quotidien? Est-ce que peut-être dans les coups de pinceau, dans les choix des représentations sur les œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose où on peut se dire, ah tiens, là, il y a peut-être une petite touche de Degas, une petite touche de Renoir?
Ouais, ça, c'est une question difficile. Je pense qu'elle a sublimé toutes les expériences qu'elle rencontrait et tout ce qu'elle a appris au prix de ces hommes fabuleux, quand même, pour créer. Moi, j'ai envie de dire qu'elle a créé son propre chemin. C'est ça qu'il faut retenir de Berthe Morisot, c'est qu'elle est à la fois un petit peu de tous ces hommes-là, mais elle est surtout terriblement elle-même dans ce qu'elle a créé avec sa propre personnalité, la tendresse qu'elle a portée au regard sur le monde, le regard sur sa fille. Quand on voit le berceau où elle peint, hein, qui est une des œuvres les plus connues de Berthe Morisot, c'est sa sœur qui regarde avec beaucoup de tendresse son bébé dans le berceau. Moi, je me dis, elle a inventé son propre style, elle a creusé son sillon, et c'est rendre hommage aux autres peintres, de dire qu'elle a effectivement sûrement puisé, comme tout le monde, hein, chez chacun, de lors des rencontres, un petit peu des influences. Mais elle est terriblement elle-même quand même. Enfin, on la reconnaît en tout cas quand on va voir ses œuvres à Orsay ou dans d'autres musées. Elle ne ressemble à aucune autre.
Dans un des épisodes que j'ai diffusé il y a pas très longtemps, le témoignage de Alix et Léa, toutes les deux disaient l'importance pour elles d'être fières de ce que font leurs amis, que vraiment c'était très important d'être fières du travail réalisé, de tout ce qu'elles peuvent faire au quotidien, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. J'ai l'impression que ce sentiment de fierté, il existait aussi dans ce groupe finalement.
Oui, ben, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'elle était, il y avait une forme d'égalité de traitement. Elle était comme eux, c'est-à-dire une peintre. Hein. Et d'ailleurs, ils s'échangeaient leurs tableaux. Je ne sais plus lequel avait acheté énormément, enfin en tout cas, avait collectionné les œuvres de Berthe Morisot.
Oui, j'ai vu qu'elle leur avait légué aussi quand elle est décédée.
Exactement. Donc, il y avait aussi, pareil, une transmission et puis un respect. Un respect du travail, un respect de la personnalité. Donc, une fierté finalement qui était une connivence. À travers la fierté de la reconnaissance, c'était une connivence. Et du coup, je pense que ça l'a aidé, ça l'a porté forcément à exister comme c'est dans ce milieu vraiment où c'était difficile de percer. Hein. Pour la petite histoire, ce n'est que quelques années plus tard, hein, en 1897, que les Beaux-Arts vont s'ouvrir aux filles. Quoi, hein. Donc, ça met quand même quelques années à émerger. Elle a ouvert des brèches.
Oui, puis elle a dû en inspirer plus d'une,
voilà,
sûrement.
Je pense, oui. Elle a fait école, comme on dit,
c'est
dans
ça.
Le domaine. Quoi. Hein?
Et dans le livre donc, que tu as juste devant toi, celui qui raconte l'histoire de Berthe Morisot, est-ce qu'on peut juste redire le nom de l'autrice?
Ça s'appelle Berthe Morisot, Le secret de la femme en noir. Et c'est Dominique Bonnat de l'Académie française.
Et donc, dans ce roman que je sais que tu as lu, est-ce que justement elle parle de ces relations-là, de ce groupe d'amis? Quelle importance a ce groupe dans l'histoire de Berthe Morisot qu'elle décrit, elle?
Elle évoque tous ces personnages, elle retrace les lettres, elle raconte un petit peu comment elle a cheminé depuis son enfance et puis la rencontre avec ses différents artistes. S'il y a une biographie à lire aujourd'hui sur Berthe Morisot, il faut s'autoriser celle-là, d'autant qu'elle est publiée en livre de poche, hein, donc petit budget. Elle a une manière justement de retranscrire le mystère, le secret de la femme en noir, le mystère qui se cache derrière cette femme. Berthe Morisot restait quand même, malgré tout, elle ne pouvait pas aller dans les bistrots comme certains peintres faisaient, s'installer pour aller dessiner ou peindre au contact de la population. Hein. Beaucoup de peintres de l'époque se sont confrontés à des modèles, enfin, ont dessiné les gens, la vie des gens dans les bistrots. Elle ne pouvait pas. On a parlé tout à l'heure des sujets, justement. Pourquoi elle ne pouvait pas aller faire d'autres sujets que ceux de sa vie intime? C'est parce que ce n'était pas la place d'une femme d'aller se confronter à la réalité. Donc, il y a ça aussi qui fait que ça l'a cantonné à certains, peut-être, certains thèmes. Et d'un autre côté, ça lui a permis peut-être aussi de se créer son propre univers. Elle peignait aussi sur un bateau à une époque. Enfin, ils ont été plusieurs à peindre sur des bateaux sur la Seine. Enfin, Voilà, et elle a fait partie de ces gens-là. Donc, ce qui prouve aussi qu'elle était moderne, hein, qu'elle n'hésitait pas à se confronter à l'extérieur.
Et donc, aujourd'hui, les œuvres de Berthe Morisot sont exposées un peu partout dans le monde. J'ai noté en France qu'on pouvait les retrouver, ses œuvres, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, celui de Limoges, de Lyon, au Musée Fabre de Montpellier, à Paris, évidemment, au Musée Marmottan-Monet, ou alors au Musée du Louvre et au Musée d'Orsay. Ailleurs dans le monde aussi, mais j'ai... plus précisément, on choisit la France parce que je sais que mes auditeurs sont en France. Quelle œuvre est-ce que toi, tu nous conseillerais de découvrir de Berthe Morisot s'il y en a une, en tout cas, qui t'a plus marqué qu'une autre?
Ben, tout à l'heure, j'ai parlé du berceau. C'est vrai que à quelques jours de la fête des mères, finalement, ça fait résonance en moi. Je vois sa sœur, Edna, qui regarde ce bébé. On se demande, quand on regarde ce tableau... Mais elle a réussi à retranscrire toute la tendresse, la plénitude, la sérénité, le questionnement aussi de la mère, hein, qu'elle a été par la suite et qui a été aussi la grande révolution de sa vie. Parce qu'au-delà d'être une femme, une peintre, elle a été aussi mère et elle a beaucoup, beaucoup représenté sa fille. Hein, qui elle a transmis par la suite cet amour de la peinture. Et je trouve que c'est l'histoire qui se prolonge finalement. Hein, c'est peut-être facile, hein, parce qu'elle n'a pas peint que des mères, que des femmes, mais c'est un éblouissement à chaque fois que je vois ce tableau. Et Dieu sait que parfois les enfants, on a aussi envie de dire « Ah, ils sont pénibles, ils sont fatigants ». Mais elle a réussi comme personne justement à parler de, non pas de l'enfant, mais de la mère. De la mère, de la femme. Face à la maternité, avec vraiment beaucoup de grâce.
Une dernière question pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin et pousser le sujet un peu plus loin, que ce soit en termes de peinture ou au sujet de Berthe Morisot. Quelles recommandations culturelles est-ce que tu leur ferais ? Que ce soit un livre, un musée à découvrir, alors qu'il y ait des œuvres de Berthe Morisot ou non, mais en tout cas, peut-être sur le sujet des impressionnistes, de tout ce groupe-là, quelles recommandations est-ce que tu ferais ?
Moi, j'ai très envie, là, en ce printemps qui se réveille enfin, hein, avec le retard qu'on a dans la météo et le retard qu'on a de soleil et d'envie de sortir, c'est d'aller à Giverny, chez Monet, hein, qui était ce frère de peinture si cher à Berthe Morisot. C'est de visiter ce jardin. Et puis, il y a également un musée des impressionnistes à Giverny, ce petit village qui est délicieux, qui est resté typique, où il y a tout un cheminement dans le village pour découvrir à la fois peut-être une statue de Monet, un jardin, une place, la tombe de Monet. C'est toujours émouvant d'aller au cimetière et de savoir que ce grand peintre est enterré là. D'imaginer Berthe Morisot qui rendait souvent visite à Monet, échanger peut-être sur leur dernière toile, sur les couleurs, sur la technique de peinture. Je pense que voilà, maintenant que tout réouvre et qu'on peut être surtout dehors en attendant d'être aussi à l'intérieur, c'est de profiter de ces lieux de culture qui nous ont tant manqué, hein, les jardins, parce que c'est facile, et puis les musées, parce que c'est à chaque fois des mines pour se faire plaisir, découvrir le monde, revisiter peut-être le regard que l'on a sur ces artistes d'une période donnée et sur ce mouvement éblouissant qu'est l'impressionnisme. Voilà.
Merci beaucoup, ça donne très envie en tout cas de découvrir tout ça. Et puis c'est sûr que de retourner au musée, on découvre toujours aussi les œuvres, même si on est déjà allé plusieurs fois dans le même musée. On peut découvrir une œuvre qui était là depuis des années et qu'on était passé devant sans faire attention. On redécouvre aussi parfois avec un nouvel œil en fonction de ce qui se passe dans nos vies. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de retourner découvrir tout ce qui fait la culture de notre pays et qui nous a construit aussi, parce que la culture fait partie de la construction.
Et qu'on reçoit, comme tu le dis si bien, différemment à chaque âge de la vie, à chaque événement qui nous a marqué. Moi, je parle du berceau parce que voilà, la fête des mères, il y a une résonance. Et puis
oui, on enregistre le lendemain de la fête des mères, donc on est en plein dedans.
Voilà, on est en plein dedans. Peut-être que demain, je vais citer un autre tableau. Effectivement, il ne faut pas hésiter. Et puis, peut-être pousser un peu la porte plus loin parce que la Giverny, ce n'est pas tout près. Mais dans les Vosges, on a aussi des choses magnifiques. On a le musée de l'image qui vient de réouvrir, qui est notre patrimoine. Et on a aussi le musée départemental d'Épinal qui est une formidable passerelle entre la tradition et l'art contemporain, avec des œuvres extraordinaires également. Moi, c'est mes deux lieux préférés, forcément, à Épinal, pour obtenir des émotions également différentes.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Les auditeurs qui ne connaissent pas les Vosges ont noté quelques adresses, en tout cas. Merci à toi, Sabine, d'avoir été avec nous.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, parle de Friendship autour de toi. Partage ton épisode préféré sur Instagram. Je me ferai un plaisir de repartager. Et puis, tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et Podcast Addict. Ça te prend 2 petites minutes, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup parce que ça soutient mon travail et sans mentir, ça permet à Friendship d'être mieux référencé sur toutes les plateformes. Alors merci pour ton soutien et pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.